Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Résoudre les difficultés sociales et sanitaires de la population de Calais au Sud Kivu, victime des inondations, c'est entre autres la mission d'une délégation gouvernementale et de l'Assemblée nationale conduite par le Premier ministre. Elle est arrivée hier la nuit par Goma. Début ce vendredi à Aru Centre en Ituri du dialogue entre les groupes armés actifs dans cette province. Il s'agit de régler les différends qui les opposent et assurer le respect des accords qu'ils ont signés pour la cessation définitive des hostilités en Ituri, assurent les organisateurs. Et puis, Sud Kivu, le centre de recherche en sciences naturelles de l'UIRO, vient de se doter d'un laboratoire moderne de recherche sur la transmission de la tuberculose humaine et animale. Mais sur quoi portent essentiellement les recherches dans ce centre? Réponse avec le professeur Robert Kassissi, son directeur général. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé conduit une grande équipe mixte gouvernement et Assemblée nationale dans la partie est du pays. C'est pour apporter des réponses aux divers défis dans le territoire de Calais au sud Kivu. Arrivée jeudi la nuit par Goma, cette équipe entend résoudre les difficultés sociales et sanitaires de la population de Calais, victime des inondations. Du côté infrastructure, il mettra à contribution l'OVD et le génie militaire pour accélérer le processus de réouverture de la nation. Numéro 2. Plus de précisions avec le Premier ministre à son arrivée dans cet extrait que nous propose Billy Vandutumba.
C'est important que, après que nous ayons déclaré la zone sinistre, nous venions apporter des solutions dans le domaine social d'abord, ensuite dans le domaine sanitaire. Dans le domaine social, bien sûr, c'est au niveau des abris et de tous les ustensiles vivres et non vivres. Au niveau de la santé, parce qu'il y a toujours un apport sanitaire à apporter en termes d'appui en médicaments. Et donc, nous savions qu'il y avait une sollicitation du point de vue des infrastructures. Nous voulons apporter notre appui au niveau de l'OVD pour s'assurer de la réouverture de la RN2. Et à côté de ça, bien sûr, je suis accompagné d'une grande délégation du gouvernement qui va aussi aborder les autres aspects selon les demandes qui seront apportées. Nous allons aussi avoir l'implication du ministère de la Défense, notamment avec l'armée, du point de vue du génie militaire et même du point de vue médical, qui pourront nous venir en aide. Et bien sûr, comme nous sommes dans la zone Est, particulièrement au nord Kivu, avec la situation sécuritaire que nous vivons, nous aurons l'occasion avec les autorités locales, notamment les gouverneurs militaires, ici au niveau du nord Kivu et même probablement de l'Ituri, de faire le point de situation sécuritaire et de donner quelques indications aussi par rapport aux attentes de la population.
Toutes nos excuses pour la qualité moins bonne de cet élément sonore. Font partie de cette équipe le ministre d'État en charge du développement rural, le ministre de l'Industrie, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le ministre d'État en charge du Budget et le ministre des Finances. L'Assemblée nationale est représentée par son deuxième vice-président avec quelques députés. Séjour du président de la République en Chine. Les Congolais vivant dans ce pays disent attendre beaucoup de Félix-Antoine Tshisekedi. De leur côté, ils ont aussi parlé de plusieurs projets qu'ils pensent lui soumettre pour le développement du pays. Ces Congolais vivant en Chine l'ont dit hier au cours de la rencontre qu'ils ont eue avec le couple présidentiel. On écoute quelques-uns au micro de Jocelyn Moussaoupondé, notre envoyé spécial en Chine.
On a plusieurs projets qu'on peut présenter au président, par exemple la lutte contre le fake news. On a palpé ce modèle ici avec la ville de Wuhan.
Pour nous, les hommes d'affaires, nous avons besoin que nos institutions financières puissent être en harmonie avec les institutions chinoises parce que nous sommes butés surtout à des problèmes de transactions. Notre pays est blacklisté. Western Union, même les banques, quand nous allons pour faire des transactions, ça nous crée beaucoup de problèmes.
En Guangzhou, j'étais de passage. Normalement, je vis en RD. Mais étant donné que le président venait, je ne pouvais pas rester indifférent de son arrivée.
Étant diaspora étudiant vivant en Chine, nous avons quelques projets à lui soumettre. Moi, personnellement, mon projet est tablé sur la production des bitumes à partir des tuisses bituminées de Mavoum.
En tant que diaspora, nous avons un rôle important à jouer sur le développement de notre pays. Et du coup, pour que nous puissions bien jouer ce rôle, il nous faudra aussi que le gouvernement de son côté de pouvoir préparer une plateforme.
Direction l'Ituri, je vous l'ai dit dans les titres. Le dialogue entre les groupes armés actifs en Ituri se tient dès ce vendredi à Aru Centre. Nous sommes à 260 km au nord de Bunia. Ces assises sont initiées par le gouvernement provincial avec l'appui de la MONUSCO. Selon les organisateurs, l'objectif est de régler les différends qui les opposent et assurer le respect des accords qu'ils ont signés pour la cessation définitive des hostilités en Ituri. Isaac Remoyope, reportage.
Les groupes armés représentés à ces dialogues sont Codeco, Zahir Mapi, la Force Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC et les Fraudes et Résistances Patriotiques de l'Ituri, FRPI. Ces milices accusent mutuellement de violer les accords de paix, ce qui entraîne des affrontements suivis des morts des civils et des dégâts matériels. Selon le gouvernement provincial, ces violences des groupes armés constituent un obstacle au processus de paix en Ituri. Cette rencontre appuyée par la MONUSCO offre l'opportunité de se parler face à face des différends qui les opposent avec l'espoir de trouver des solutions directes aux conflits armés déclenchés en 2017. Ces groupes armés seront également sensibilisés sur la situation des enfants associés aux groupes armés, le programme de désarmement et démobilisation et réinsertion communautaire, ainsi que la lutte contre l'impunité. La finalité de ces discussions est d'obtenir l'engagement de leurs leaders en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale, la reprise des activités économiques dans certains milieux insécurisés, les retours des déplacés, la libre circulation des personnes et de leurs biens, ainsi que la préparation des groupes armés au programme de DDR. RCS. Cette rencontre sera sanctionnée par la signature d'un pacte de non-agression mutuelle, affirment les organisateurs. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
À Goma, pendant ce temps, une cinquantaine des présumés bandits ont été présentés hier à la presse par le maire adjoint de la ville. Ils ont été arrêtés par les services de sécurité dans deux quartiers populaires avec les effets militaires et autres stupéfiants. L'autorité urbaine s'est réjouie des résultats de la série d'opérations nommée No Stop, lancée il y a quelques jours dans la ville. Cette opération vise à lutter contre la criminalité urbaine grandissante et la dépravation des mœurs. Denise Lukesso, au reportage.
La série d'opérations baptisée Non-Stop par l'autorité urbaine a ciblé les maisons de tolérance dans deux quartiers, Mapendo et Kayembe notamment. Au moins une cinquantaine de présumés bandits munis d'une arme à feu, des faits militaires et autres outils ont été arrêtés par les services de sécurité au cours d'un couvre-feu. Le maire Kapend Kamand Faustin parle de l'importance de cette opération.
Compte tenu de la grande criminalité qui a secoué la ville de Goma, on pensait à organiser certaines opérations de proximité dans nos différents quartiers pour lutter contre la dépravation des mœurs et l'insécurité. Lorsque les gens se mettent tôt le matin en train de prendre les boissons fortement alcoolisées et les chanvres à fumer, cette prise de comportement a une incidence sur la vie même au quotidien de nos compatriotes. Vous avez vu les différentes natures des drogues qu'on venait de présenter, une arme, les effets militaires, les chanvres à fumer et les divers.
Le maire Kapend Kamand se félicite de la collaboration de la population qui s'active à dénoncer ces inciviques auprès des services de sécurité. Il l'invite à continuer sur cette lancée car, dit-il, la sécurité est une affaire de tous. Goma, Denise Lukesso, Radio Kapi.
Répression des libertés publiques en RDC. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, attendu à l'Assemblée nationale, le député national Ados Ndombassi, a adressé une question orale avec débat au ministre Peter Kazadi et attend instamment la programmation d'une plénière par le bureau pour débattre de cette question. L'élu de Kinshasa dénonce la violation flagrante de l'article 26 de la Constitution par le gouvernement et la police qui, dit-il, ont non seulement changé l'itinéraire, mais aussi la police qui a réprimé brutalement les manifestants de l'opposition. Plus de détails avec Michel Kifindangoy.
Conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution et 170 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le député national Ados Ndombassi veut des réponses du vice-premier ministre de l'Intérieur sur, selon lui, la barbarie des policiers samedi dernier en violation de la Constitution. Ados Ndombassi.
Et selon l'article 26, la liberté de manifestation est garantie. Nous sommes dans un régime d'information, donc il est inscrit nulle part que le gouverneur puisse prendre part dans l'organisation de la manifestation en changeant l'itinéraire.
Pour l'élu délicidé de Martin Fayoulou, il est inconcevable dans une démocratie que la police utilise des armes létales pour réprimer les manifestants.
Comment expliquer qu'un parti politique soit admis à organiser des milices équipées de machettes pour terroriser, sous le regard indifférent des agents de l'ordre, les paisibles citoyens exerçant leurs droits constitutionnels? Rien ne peut justifier qu'une marche pacifique dégénère en une tragédie.
Ados Ndombassi exige donc du ministre Peter Kazadi l'identification des policiers et responsables des milices qui ont tabassé et blessé les manifestants et le sort qui leur sera réservé conformément à la loi.
Rendons-nous dans le Haut-Katanga. La régie des distributions d'eau est confrontée à plusieurs difficultés dans la ville de Lubumbashi. Certaines machines sont tombées en panne. Conséquence, une bonne partie de la population n'est pas desservie en eau potable. Pour le directeur provincial de la régie des eaux, il y a des institutions étatiques et autres entreprises publiques qui ne payent pas leurs factures estimées à plus de 5 millions de dollars. On écoute à ce sujet Ignace Ngoy Kabulo, directeur provincial de la régie des eaux au Grand Katanga. Il est au micro de Jean Gando.
Rien que les problèmes d'énergie me privent au moins 6 à 8 heures de fonctionnement. Tout simplement parce que dans les grandes usines, je suis aujourd'hui délesté. Principalement à Kimilolo, à Kassapa, et dans des stations comme la station de Nilou, je ne peux pas travailler 24 heures sur 24. Si nous avions des moyens, effectivement, ces problèmes seraient résolus par nous-mêmes. Et malheureusement, ces moyens sont détenus en grande quantité par nos partenaires qui sont censés nous les confier, notamment SNCC qui nous doit plus de 2 700 000 dollars. La RVA doit plus de 2 500 000 dollars. Vous avez le gouvernorat avec les entités territoriales décentralisées, dont les mairies et les communes qui doivent à eux tout seuls 3 800 000 francs congolais. C'est beaucoup d'argent. Si on vous donnait même un 10% de cet argent, vous pouvez régler les problèmes que nous avons au niveau de l'Inilou avec 3 petites pompes qui sont en panne, ou au niveau de Kafubu qui devrait améliorer la situation d'eau potable de Caravia, qui ne demande que 140 000 dollars. Quand ils ne payent pas, chaque production, il y a quelque chose qui manque. Et de bout en bout, c'est tout qui est parti et l'entreprise est décapitalisée.
Sud Kivu, l'hôpital de référence du centre de recherche en sciences naturelles de l'UIRO, éprouve quelques difficultés pour rendre service à la communauté locale. Bien que doté de matériel permettant d'administrer des soins de qualité, cet hôpital installé dans le territoire de Kabare n'est pas du tout fréquenté. Docteur Céline Kavira Malengera, médecin directeur de cet hôpital, évoque également le manque d'une ambulance pour le déplacement des malades. Elle s'exprime au micro de Emmanuel Elamejiou Akabedi.
Le centre hospitalier de l'Uiro, il a d'abord été connu avant comme un hôpital pédiatrique de l'Uiro, là où on prenait en charge seulement les enfants ou les malades mal nourris. Depuis un certain temps, on a pensé qu'il fallait ajouter d'autres services. Nous avons une maternité à côté. Ici, à l'hôpital, on a ajouté la médecine interne. Nous avons un sérieux problème par rapport à la prise en charge au centre hospitalier de l'Uiro parce que beaucoup de gens savaient que les soins étaient gratuits. Donc, c'est pas facile de faire comprendre à quelqu'un qui va commencer à payer les soins. Ce qui fait que nous avons beaucoup de cas des évadés et ce qui fait que l'hôpital ne parvient pas à émerger. Les capacités sont des 100 lits, mais on n'a pas des malades qui viennent nous consulter. Et dans les services de médecine interne, on peut arriver à 8, service de chirurgie à 8. Nous attendons les malades qui ne viennent pas souvent. Et l'autre difficulté que nous avons, nous n'avons pas d'ambulance pour déplacer les malades en cas d'urgence et nous avons l'espoir qu'on va relever le niveau de soins des malades.
Province du Maniema, le taux d'incidence du paludisme n'est fait qu'augmenter. Lors d'une présentation des résultats de la mise en œuvre du projet de contribution à l'accès universel de la population de cette province à des interventions efficaces de lutte contre le paludisme, il a été révélé que 247 cas pour 1000 habitants ont été enregistrés en 2022, pendant que le pays s'est fixé comme objectif 124 cas pour 1000 habitants. Ces résultats ont été présentés par l'ONG Sanru, Santé Rurale, qui intervient dans la lutte contre le paludisme avec le financement de la Banque mondiale. C'était lors d'une conférence de presse hier à Kindu. Les détails avec Florence Kiza.
D'après le docteur Béa Kungé Etienne, chef de projet paludisme chez Ouaki Maniema, malgré la disponibilité des intrants de litres et les efforts fournis par les partenaires, l'impraticabilité des routes est un véritable handicap.
À ce jour, en termes de chiffres, l'incidence du paludisme dans la province du Maniema, elle reste élevée. Nous sommes autour de 247 cas pour 1000 habitants, alors que le pays voudrait qu'on soit à 124 pour 1000 habitants. Mais tout ce qu'on a mis en œuvre comme effort nous aide à réduire un tant soit peu ces taux-là. Mais vu l'état de dégradation avancée de nos routes, fait que même desservir les zones dans une période bien déterminée, nous allons parfois au-delà.
Indigné, le ministre provincial de la Santé promet de faire rapport à sa hiérarchie. Docteur Kibungi Mutanga Junior.
Et en termes de résultats, nous sommes dans un état d'indignation du fait que les taux ou la prévalence des paludismes ne fait qu'augmenter. Et nous sommes en train de se battre avec le niveau national pour qu'on ait des moyens pour arranger les routes, pour faciliter par exemple les médicaments qui distribuent l'ensemble de la province.
Signalons que la société civile, les gouvernements provinciaux et plusieurs autres partenaires ont pris part à cette activité. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le gouvernement sénégalais a promis hier la fermeté contre toute tentative de trouble à l'ordre public, ce alors que l'opposant Ousmane Sonko, menacé d'inéligibilité à la présidentielle de 2024, s'apprête à prendre la route pour Dakar à la tête d'un convoi populaire. Après son procès pour viol tenu en son absence mardi, Ousmane Sonko a affirmé mercredi son intention de rentrer à Dakar par la route et de transformer ses quelques 500 km de trajet en caravane de la liberté pour mener le combat final contre le président Macky Sall. Plus de 300 000 électeurs étaient attendus aux urnes hier au Puntland, région semi-autonome de la Somalie, lors des élections locales, les premières au suffrage universel direct depuis plus de 50 ans. Plus de 3 000 candidats étaient en lice pour ce scrutin, dont 28% des femmes. Et puis, des dizaines de militants manifestent ce vendredi à proximité de la salle Pleyel à Paris où se déroule l'Assemblée générale de Total Énergie. Alors que le groupe a connu des bénéfices records en 2022, plusieurs ONG et activistes climatiques avaient signé une tribune fin avril prévenant vouloir empêcher cette Assemblée générale d'avoir lieu.
L'invité.
Il s'agit du professeur Robert Kassissi, directeur général du Centre de recherche en sciences naturelles de l'UIRO et au Sud Kivu. Il s'exprime sur ce centre qui est d'une importance capitale. Il explique aussi la particularité du laboratoire moderne de recherche sur la transmission de la tuberculose humaine et animale, laboratoire dont vient de se doter ce centre. Le professeur Kassissi s'entretient avec Emmanuel Elamegi.
Professeur Robert Kassissi, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est quoi le CERSEN LUIRO? S'occupe de quoi?
Bon, le CERSEN LUIRO, c'est l'ex-IRSAC, Institut de recherche scientifique en Afrique centrale. C'est un centre de recherche qui a été créé en 1947, donc nous avons toute une histoire, par la Belgique coloniale. Le centre avait pour rayon d'action l'Afrique centrale. Le centre s'occupe de toutes les questions de recherche appliquées et fondamentales des sciences naturelles. Et là-dedans, nous avons le département de biologie, qui comprend la biologie animale, la biologie végétale, le département d'environnement, environnement aquatique, environnement terrestre et de plus en plus environnement rural et urbain, département de géophysique. Nous allons des eaux thermales jusqu'au glissement de terrain, tremblement de terre, volcanologie. Il ne faut pas oublier que l'observatoire volcanologique de Goma est un produit de l'UIRO. L'autre, c'est le département de nutrition et santé. Et c'est là-dedans, aujourd'hui, on travaille sur la santé unique, One Health. Il y a aussi le département de documentation. C'est un des centres de documentation les plus importants d'Afrique. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons aussi avec les hôpitaux universitaires de Paris, plus spécialement l'hôpital Avicenne de Paris, qui est spécialisé dans toutes les questions de tuberculose. C'est un laboratoire qui va devenir un laboratoire de référence pour la RDC.
Monsieur le DG, vous avez des techniciens, des chercheurs dans tous les départements ici au CERSEN LUIRO?
Ah oui, nous avons une centaine de chercheurs, hein, principalement congolais. Nous avons quelques chercheurs étrangers.
Il y a des animaux aussi ici, un jardin botanique, un jardin zoologique, voilà.
Oui, ça c'est le département de biologie.
Biologie.
Oui, oui. En fait, nous avons un petit jardin ethnobotanique Nous avons le sanctuaire ici qui est un des, je peux dire, un des plus importants sanctuaires des grands primates de la planète, au niveau de la planète. Donc nous avons des chimpanzés ici. Les serpents, nous avons un élevage de serpents. Nous avons aussi un élevage de moustiques. Hein.
Des moustiques?
Oui. Oh oui, très important parce qu'elles sont des vecteurs de malaria, de paludisme. Mmh. Pour les moustiques, l'élevage, c'est de voir comment, avec les croisements de certaines espèces de moustiques, on peut arriver à des moustiques qui peuvent finalement être exempts de transmission de malaria. Mmh. On travaille aussi sur la résistance aux insecticides. Et puis trouver des insecticides qui sont écologiques, efficaces, pour pouvoir les imprégner les moustiquaires.
Ok, professeur.
Un autre point qui est très important, le lac Kivu. Vous savez, vous mangez le sambaza aujourd'hui.
Beaucoup, oui.
Beaucoup. Mm. Il n'y avait pas de sambaza dans le lac Kivu. C'est lui donc qui a introduit le sambaza dans le lac Kivu. Sambaza aujourd'hui qui est mangé, consommé au Rwanda. Et puis, okay, vous, normalement, vous devriez nous payer pour ce service-là. Il y a le gaz du lac Kivu.
Ouais.
Nous avons des gens ici qui ont fait le suivi aussi de gaz du lac Kivu.
Et le résultat?
Et on a fait la caractérisation, voir des endroits où il y avait des types de gaz, quel type de gaz, etc.
Ok. Ouais. Professeur Robert, parlez-nous des défis aujourd'hui au Centre de recherche en sciences naturelles de l'URO.
Le défi, si on parle aussi des infrastructures, je dois rappeler qu'en 2018, l'URO a été désigné patrimoine architectural de la Belgique coloniale. Donc vous voyez tout ce qu'on a comme architecture ici, c'est unique. Hein. Et avec ça, évidemment, par manque d'entretien, il y a une certaine décrépitude des infrastructures. Alors nous sommes en train de travailler là-dessus pour mobiliser des fonds pour la réhabilitation des infrastructures. Ah oui, c'est un centre touristique aussi.
Hein. Centre touristique.
Nous avons un guest house ici, un des meilleurs d'Afrique, avec une piscine dans laquelle il y avait l'eau thermale, donc l'eau chaude qui vient du sol et qui a des vertus thérapeutiques.
Professeur Robert Kassissi, directeur général du Centre de recherche en sciences naturelles de l'URO, merci pour aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Emmanuel Elameji. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.